France Culture.
Bonjour Marina, bonjour à tous. Peut-on allier industrie, finance et protection des océans? Équation à laquelle tentent de répondre les acteurs de l'économie bleue réunis à Monaco ce week-end avant le sommet des Nations Unies sur l'océan lundi. Des drones français en soutien de l'Ukraine, des entreprises françaises de l'automobile et de la défense produiront bientôt des drones sur le sol ukrainien, ce dont se félicite l'armée française. Enfin, quand la justice française se penche sur les accusations de génocide à l'encontre d'Israël dans la bande de Gaza, le parquet national antiterroriste ouvre deux enquêtes contre des franco-israéliens soupçonnés d'avoir bloqué l'aide humanitaire dans l'enclave. Une plainte contre X pour meurtre et génocide a par ailleurs été déposée hier. On y revient en longueur avec notre invité, avocat spécialiste en droit pénal international, Emmanuel Daoud. Comment concilier activités économiques maritimes et protection des milieux marins? Enjeu au cœur du forum sur l'économie bleue qui se tient à Monaco ce week-end avant le début de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan qui débute lundi à Nice. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour Julie.
Alors avant l'arrivée d'Emmanuel Macron cet après-midi, eh bien ce matin, entrepreneurs et investisseurs ont lancé les débats sur les enjeux économiques de la préservation de l'océan, Catherine.
Oui, tous sont réunis pour échanger sur un objectif, développer une économie de l'océan plus durable. Il faut arrêter de dilapider la ressource en dégradant nos écosystèmes marins, car l'océan est un capital tout aussi important que fragile, a rappelé en ouverture Pascal Lamy. Il est désormais le co-directeur de ce forum pour la finance et l'économie bleue.
Notre conviction est que l'océan recèle une formidable quantité d'opportunités économiques et financières, d'une valeur estimée à quelque 25 000 milliards de dollars. Mais cette valeur ne peut et ne pourra se réaliser qu'à une condition, que nous, les humains, cessions de la dilapider en contribuant, comme nous le faisons encore trop souvent, à la dégradation de nos systèmes marins et aquatiques.
Ne rien faire coûtera très cher, a une fois encore insisté Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale. Une sécurité alimentaire incertaine, des zones côtières sous les eaux, tout ça menace les populations, mais aussi la stabilité financière des pays. Il faut donc valoriser des outils pour protéger le rôle économique des océans, comme les aires marines protégées, des taxes sur le tourisme ou les carburants. Tous ces sujets sont au menu des échanges, mais l'autre enjeu, c'est aussi de démontrer ici aux acteurs privés que l'océan mondial est un marché sur lequel il est possible d'investir. Seulement, convaincre les financeurs n'est pas si facile. Il faudra des textes réglementaires, a insisté le président de la Fondation Océano Azul, José Soares dos Santos.
L'océan est un capital très fluide. Et nous, en tant qu'investisseurs, nous trouvons très difficile d'y investir, car nous n'avons pas de contrôle sur les délais, l'espace, ni sur les produits financiers qui sont très innovants. Si nous n'obtenons pas un accord à l'UNOC, et si nous ne poussons pas tous pour cela, je ne vois pas d'avenir.
Si Emmanuel Macron est attendu en clôture de ce forum pour une déclaration, rappelons que les organisateurs de ce week-end attendent des discussions, mais pas vraiment d'engagement formel de la part des participants.
Catherine Pétillon en direct de Monaco avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. C'est un nouveau partenariat qualifié de gagnant-gagnant par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Des entreprises françaises de l'automobile et de la défense vont prochainement s'allier pour produire des drones sur le sol ukrainien. Des drones à destination des soldats ukrainiens qui fourniront de leur côté leur retour d'expérience sur la façon dont ils les utilisent sur le front, précise le ministre, alors que la France cherche à rattraper son retard dans le domaine, ce dont se félicite le général Patrick Dutartre, ancien général de l'armée de l'air.
Je ne sais pas s'il y aura un changement majeur sur le conflit en cours, mais en tout cas, c'est un partenariat qui risque d'être gagnant-gagnant à la fois pour les Ukrainiens et à la fois pour les Français. Pour les Ukrainiens, de les aider à produire plus de drones, vous savez qu'ils en consomment presque 5 millions cette année, et pour la France, de récupérer une partie de ces drones, déjà pour nos propres besoins, et puis surtout de bénéficier de l'expérience opérationnelle de terrain qui est quotidienne, bien sûr, en Ukraine aujourd'hui. Par contre, il faut quand même rester réaliste, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les Ukrainiens, on n'a pas les mêmes besoins que l'Ukraine aujourd'hui, on n'envisage pas qu'à Strasbourg ou ailleurs, on ait un jour une ligne de front, c'est pas du tout envisageable compte tenu de la stratégie, donc il faut que notre production soit adaptée à notre menace. Et aujourd'hui, il n'y en a que deux, c'est le terrorisme principalement, et évidemment la menace russe, c'est pour ça qu'on doit être absolument derrière les Ukrainiens, parce que c'est notre premier bouclier, le bouclier européen, c'est le bouclier de l'OTAN et quelque part c'est aussi un bouclier pour la France dans son système de défense.
Le général Patrick Dutartre, ancien général de l'armée de l'air, tandis qu'en Ukraine, de nouvelles frappes russes la nuit dernière ont fait au moins 5 morts et plus de 20 blessés à Kherson et Kharkiv, deuxième ville du pays, qui a subi, d'après son maire, l'attaque la plus puissante depuis le début de la guerre, Moscou ayant promis de riposter à la destruction d'une partie de sa flotte aérienne dimanche dernier. Une plainte contre X a donc été déposée hier auprès de la justice française pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Plainte déposée par Jacqueline Rivaud après la mort dans la bande de Gaza de deux de ses petits-enfants âgés de 6 et 9 ans, tués dans des bombardements israéliens le 24 octobre 2023. Bonjour Emmanuel Daoud.
Bonjour.
Vous êtes avocat spécialiste en droit pénal international, conseiller juridique de la Ligue des droits de l'homme. Alors qu'attendez-vous exactement de la justice française? Vous avez co-rédigé cette plainte. En quoi également ces différents crimes sont selon vous caractérisés?
Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je l'ai co-rédigé avec mon confrère Ari Halimi, qui représente la grand-mère et la famille. Et pour ce qui me concerne, je représente la Ligue des droits de l'homme. Alors ce que nous attendons, et ce qui est l'originalité entre guillemets de cette plainte, c'est que c'est la première fois que la justice française est saisie de faits qui concernent des victimes françaises, c'est-à-dire ces enfants qui sont malheureusement décédés à 6 et 10 ans, de troisième petit garçon qui a été blessé très gravement de nationalité française aussi 2 ans et demi, et leur maman qui est de nationalité française. Ce que nous attendons de la justice, c'est qu'une information judiciaire soit ouverte et que soient poursuivis non seulement celles et ceux qui ont actionné ces missiles, qui ont éventré cette maison, mais aussi toute la hiérarchie militaire et politique. Pour vos auditrices et auditeurs, en droit pénal international et en droit pénal français, il y a une possibilité de poursuivre les auteurs, c'est-à-dire ceux qui ont tiré, qui ont bombardé, mais aussi et surtout les complices, c'est-à-dire la hiérarchie militaire et ceux qui donnent des instructions pour que la guerre soit conduite de façon contraire au droit pénal international, contraire au droit international humanitaire. Et c'est pour cela que nous avons visé des qualifications qui sont les plus graves dans l'ordre juridique, à savoir crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de génocide. Parce que lorsque l'on emploie ces méthodes de guerre qui sont celles de l'armée d'Israël et de l'État d'Israël, aujourd'hui gouverné par le gouvernement de Monsieur Netanyahou, je ne confonds pas les Israéliens et leur gouvernement et leur armée, il y a des choses qui ne sont plus admises. Et elles ne peuvent plus être admises, et ça date pas de 2025. Dès fin 2023, donc comme on sait, il y a eu les crimes du Hamas le 7 octobre, et ensuite la riposte de l'État d'Israël, et l'État d'Israël a le droit de riposter. C'est admis de se défendre, de défendre ses habitants, de défendre son territoire. Mais on doit le faire en respectant le droit international humanitaire. Le droit international humanitaire, c'est le droit qui régit les règles de la guerre. On ne peut pas bombarder de façon indiscriminée les populations civiles. On ne peut pas exécuter sommairement des civils. On ne peut pas affamer délibérément une population. On ne peut pas déplacer 90% de la population gazaoui, c'est-à-dire environ 2 millions de personnes, au gré des conflits, et en plus sur des zones qui ne sont même pas protégées. On ne peut pas bombarder de façon indiscriminée les hôpitaux, les écoles, les mosquées. Il faut que vous sachiez, à supposer que vous ne le sachiez pas naturellement, que 90% de la bande de Gaza a été détruite. Il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'eau. Donc cela se passe sous les yeux du monde. Et donc cette plainte, elle a pour objet, évidemment d'abord de demander justice et vérité pour les victimes directes, mais aussi de fissurer ce bloc d'indifférence de l'opinion publique mondiale et aussi de l'opinion publique française. On n'est pas des donneurs de leçons en déposant cette plainte. Mais que faut-il attendre pour qu'enfin il y ait des actions fortes qui soient menées pour que imposer à l'État d'Israël et à Hamas et au Hamas ce cessez-le-feu et surtout à l'État d'Israël qu'il cesse de pratiquer cette guerre de cette façon-là.
Est-ce que finalement la fissure dont vous parlez, cette fissure d'indifférence, elle n'est pas elle n'est pas en cours. On a appris hier que le parquet national antiterroriste s'était saisi de plaintes et avait ouvert deux informations judiciaires se référant pour la première fois en France à la qualification de génocide. Alors, c'est des plaintes qui ont été déposées en novembre dernier. Elles visent des franco-israéliens qui sont soupçonnés d'avoir entravé l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Comment vous interprétez que le PNAT ne s'en saisisse que maintenant ?
D'abord, le parquet national antiterroriste ne peut pas s'auto-saisir dès lors, je parle de la première plainte, dès lors qu'il n'avait pas été saisi avant au travers du dépôt de cette plainte. Et que des faits lui ont été portés à sa connaissance par deux consoeurs, à savoir les agissements de franco-israéliens qui ont entravé l'aide humanitaire aux postes frontières, et des franco-israéliens, qui sont toujours présumés innocents, bien sûr, qui ont appelé, d'une certaine façon, à la commission d'un génocide en entravant l'aide humanitaire et en promouvant la famine sur le territoire gazaoui. Donc, ils ont été informés. Ça prend du temps, un temps trop long, mais s'agissant de la plainte que nous avons déposée, là, je fais une véritable différence. C'est que le Quai d'Orsay lui-même, quelques jours après la mort de ses deux enfants, a émis un communiqué officiel pour indiquer que deux enfants français étaient morts à Gaza à la suite de bombardements de l'armée d'Israël. Et là, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi le parquet national antiterroriste n'a pas immédiatement ouvert une information judiciaire à minima pour crime de guerre, puisqu'il s'agissait de deux enfants, donc par définition des civils, et deux victimes vulnérables. Et ça suscite beaucoup d'interrogations, cette atonie, cette indifférence et cette inaction du PNAT s'agissant de ce deuxième dossier.
Merci beaucoup, c'est entendu. Je rappelle, Emmanuel Daoud, que vous êtes avocat spécialiste en droit pénal international, conseiller juridique de la Ligue des droits de l'homme. Merci d'avoir été avec nous sur France Culture.
Merci.
Gaza, où l'armée israélienne a mené une opération spéciale dans la région de Rafah pour récupérer le corps d'un otage thaïlandais enlevé le 7 octobre 2023. Sa dépouille a été ramenée en Israël ce matin. Hier, les corps de deux otages israélo-américains ont été ramenés en Israël. 55 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, dont au moins 31 sont morts, selon les autorités israéliennes. C'est une première en 30 ans. Le roi du Maroc, Mohamed VI, appelle à renoncer au sacrifice des moutons rituel de l'Aïd el-Kébir, plus importante fête musulmane. L'abattage des animaux est interdit en raison de la sécheresse qui a provoqué une chute du cheptel et une flambée des prix. Alors dans les rues des grandes villes du Maroc, la consigne est largement suivie, notamment à Casablanca. C'est un reportage de notre correspondant Sédic Ralfi.
L'importation massive de moutons d'Espagne, de Roumanie ou même d'Australie n'y change rien. Chaque année, les prix s'envolent et le cheptel de race nationale est mal en point à cause des sécheresses à répétition. Sur ce marché de Casablanca, l'annulation du sacrifice est donc plutôt bien accueillie.
Honnêtement, moi, ce que j'en pense, je pense que c'est une bonne idée pour le peuple marocain, parce que tout le monde déjà se plaint de l'inflation des prix.
C'est une bonne nouvelle pour le Maroc et pour tous les Marocains, parce que les moutons sont devenus très chers et le climat n'aide pas. Donc je pense que c'est une très bonne chose et je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir même l'année prochaine.
Sur le plan religieux, un communiqué du palais royal explique cette dispense de sacrifice. Le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, peut ne sacrifier qu'un seul mouton, au nom de tous, pour que la tradition coranique soit respectée.
Tout à fait. C'est dans la religion, dans la charia. C'est lui qui remplace, on peut dire ça, qui remplace tout le monde. Voilà.
Nous, les Marocains, on aime la fête. On veut être en famille, entouré de nos proches, etc. Le fait de ne pas sacrifier de moutons ne veut pas dire ne pas fêter. Donc on peut le fêter autrement.
Casablanca, Sédic Ralfi, France Culture.
Et on termine ce journal par un festival qui met à l'honneur les contrefaçons et les copies dans l'art. Organisé jusqu'à demain soir à Fontainebleau, le festival 2025 d'histoire de l'art est consacré cette année à une thématique, la distinction entre le vrai et le faux. Car si de nombreuses pièces réalisées par des faussaires et dont la nature a été découverte tardivement ont depuis été remisées dans les réserves des musées, eh bien ces pièces racontent pourtant un pan de l'histoire de l'art. Pierre Robert.
Qu'il s'agisse de sculptures ou de peintures, les musées ont bien souvent dans leur collection quelques œuvres d'art qui se sont avérées être des faux. Pourtant, les institutions se font discrètes à ce sujet, regrette Catherine Chevillot.
On cache un peu, on n'est pas très fier. Et en même temps, on a beaucoup appris de toutes ces histoires de faux.
Pour cette conservatrice générale du patrimoine, l'existence de ces faux raconte pourtant, en matière d'art, l'histoire du goût.
Il y a des faux parce qu'il y a un goût pour un type d'œuvre. Parce qu'il y a un goût, il y a de la demande. Parce qu'il y a de la demande, c'est plus cher. Et parce que c'est plus cher, il y a des faux. Il faut vraiment prendre cette question comme un symptôme de l'histoire du goût. C'est là que le faux, y compris dans les collections de musées, nous révèle une mode, en fait, un regard d'une époque sur une autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment l'évolution du goût a joué dans le marché.
À titre d'exemple, Catherine Chevillot cite l'histoire de la fausse tiare en or du roi Sid Saïd Afernès, acquise par le musée du Louvre en 1896.
C'est une acquisition qui a été faite en pleine période où l'idéologie de la revanche gagne en France. L'Allemagne venait d'acheter quelque chose de très important et le Louvre ne voulait pas être en reste par rapport à l'Allemagne. C'est des considérations politiques qui ont pesé en fait dans l'achat, qui a été fait beaucoup trop vite. Et donc c'est assez caractéristique en fait d'une ambiance d'une époque. On peut être parfois amené à choisir des politiques d'acquisition pour des raisons plus ou moins conscientes qui font un biais finalement dans l'approche du dossier.
Au-delà des musées, dans le marché de l'art, les experts estiment que la proportion de faux pourrait atteindre jusqu'à 30% des œuvres, un chiffre impossible à vérifier. Là encore, il reste difficile de démêler le vrai du faux.
Un mot de météo avec un ciel bien gris cet après-midi sur la plupart des régions. Les pluies seront particulièrement intenses de la Bretagne aux frontières du Nord. Comptez 17 à 21 degrés sur la moitié Nord, 20 à 30 degrés du Sud-Ouest jusqu'à la Corse. C'est la fin de ce journal réalisé par Élise Leu.